Bonjour à tous, Carolina sur RLP pour le podcast Boss Ladies. C'est le podcast qui donne la parole aux femmes chefs d'entreprise, celles qui osent, qui créent, qui innovent et qui travaillent chaque jour pour faire bouger les lignes. À chaque épisode, nous mettons en lumière des parcours inspirants, des réussites, mais aussi des défis pour montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat au féminin. Boss Ladies, c'est un espace authentique, motivant et bienveillant pour toutes celles qui entreprennent ou rêvent d'entreprendre. Nous sommes avec Elisabeth Laborieux, gérante Ariel, achat, revente, immobilier Elisabeth Laborieux et créatrice d'émotions à travers l'art. Elisabeth, bonjour.
Carolina, bonjour.
Alors Elisabeth, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton chemin jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que tu sois marchande de biens?
Alors, mon chemin des beaux-arts. Pendant les vacances, à la fin de mes études, je suis rentrée aux établissements Laborieux, qui est mon entreprise familiale. Grossiste en boissons, on distribuait les bars, restaurants, collectivités sur Périgueux pour m'occuper sur un été. Des événements sont arrivés au niveau du personnel et j'y ai passé 15 ans de ma vie où j'ai appris le métier de commercial, où j'ai fait des formations pour adultes, pour connaître un peu le process commercial. Après, je pense que je l'avais en moi. Et le fait que ça soit mon entreprise m'a bien sûr confortée dans mon choix. Et les années ont passé très, très vite. Après, on a vendu cette entreprise familiale à un gros groupe. Et là, j'ai changé complètement de voie. J'ai racheté une petite structure de diagnostic immobilier où pendant 15 ans encore, j'ai développé cette structure qui est devenue la structure leader sur la région et sur le département. Après, pour des raisons perso, je suis partie de cette structure. Et là, comme je connaissais bien l'immobilier, puis c'était très lié au diagnostic, et pendant toute ma période de diagnostic, j'ai fait de l'immobilier comme beaucoup de gens autour de nous. On a tendance à changer souvent de maison ou d'acheter un petit appartement, de le rénover pour le revendre. Enfin voilà, c'est un peu de notoriété publique où on arrive à faire un petit peu d'immobilier plutôt facilement dans l'achat-revente. Et du coup, j'ai créé mon entreprise de marchand de biens. Parce que j'ai besoin de continuer à travailler, j'ai pas encore l'âge de la retraite, et je voulais travailler seule, justement pour prendre beaucoup plus de temps pour mon art. Moins de salariés, moins de contrariétés, moins de contraintes. Je suis dans la dernière partie de ma vie professionnelle et je veux la vivre sereinement, avec beaucoup plus de plaisir que de contraintes.
Ton activité d'avant qui était dans le diagnostic immobilier, disons que ça te permettait aussi d'être au premier rang, un peu comme un notaire pourrait l'être, pour savoir quel bien pouvait être intéressant à l'achat, éventuellement à la revente.
Tu as raison, on est un peu en avant-première et surtout on est en contact quotidien avec les agents immobiliers. Il se crée forcément un relationnel, une relation de confiance et cet ensemble de choses fait que oui, on est sûrement plus à même à avoir des propositions, des choix que si on n'est pas dans l'activité, oui.
Et alors, qu'est-ce qui t'a fait comprendre à un moment donné que tu avais aussi une vraie identité artistique?
Alors, cette identité artistique, je l'ai depuis toujours, depuis toute gamine. J'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné. Après, la vie a fait que j'ai un peu beaucoup laissé de côté. J'ai complètement laissé de côté et après j'ai eu des périodes, j'ai repris des périodes, alors peut-être des périodes où personnelles, les épreuves, les événements, la vie me faisait à chaque fois replonger dans mon art parce que c'est un bien-être pour moi, c'est les moments de création sont des moments de
réconfort,
où on oublie le temps. On rentre dans notre peinture, dans notre sculpture, tout ce que je peux faire, que ça soit la terre, que ça soit la pierre ou que ça soit la peinture. C'est une fois qu'on est dedans, on est dedans et tout le reste autour n'existe plus.
Tu es dans ta bulle.
Oui.
Et alors, est-ce que des fois, tu as le sentiment ou l'impression de devoir choisir entre les deux, entre l'immobilier ou l'art?
Alors, Forcément, oui, de temps en temps, parce que eh bien, l'immobilier, surtout aujourd'hui, en marchant bien, il faut être très réactif, il faut être disponible. Quand une relation nous appelle, nous dit je viens de voir un bien, je te montre et tout, il faut, voilà. Donc, si je suis dans mon atelier en train de peindre, bien sûr, j'arrête tout pour aller voir, pour aller visiter. Ça arrive pas tous les jours. Malheureusement, ou je ne sais pas si on peut dire malheureusement, mais voilà, c'est pas un... Après, non, les deux sont malgré tout bien liés, parce que le fait d'être ouverte à l'art me donne cette ouverture d'esprit quand je visite, de vite me rendre compte de ce que je vais pouvoir en faire, que ça soit dans la simple déco, que ça soit pour découper le bien, que ça soit pour un petit peu plus dans l'architecture et tout. Voilà, j'ai toutes ces notions qui me servent aujourd'hui au quotidien dans mon métier de marchand bien.
Et alors, petit aparté, je sais que ces derniers temps, au vu de la situation économique générale, ça s'est un petit peu durci, l'activité de marchand bien. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore une activité que tu arrives à mener comme dans les années fastes, où vous étiez peut-être un petit peu moins limité, un petit peu moins... embêté par les banques, enfin, comment ça se passe aujourd'hui cette activité?
Oui, ta question est très pertinente. Aujourd'hui, l'activité n'est pas du tout accompagnée par les banques. Alors quand je dis pas du tout, il y a très peu de banques qui accompagnent encore cette activité de marchand bien, hein, parce que j'ai vraiment le code APE marchand bien. Beaucoup font du marchand bien, mais plus sur des SCI, ou voilà. Mais là, vraiment, moi, c'est une SARL avec l'APE. Et les banques sont très fragiles avec cette activité, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de casses, comme on peut dire. Aujourd'hui, l'activité est beaucoup plus calme. Les marges sont beaucoup plus faibles. Avant, on arrivait à faire, comme on dit, des bons coups. On achetait, on revendait presque sans rien faire. Alors quand je dis avant, je ne suis pas un dinosaure non plus, mais voilà, il y a eu des années beaucoup plus fastes. Aujourd'hui, l'immobilier, on est un peu dans le creux.
Et alors, du coup, vous êtes limité à combien de biens par an en tant que marchand de biens?
Aucun.
Aucun?
On est commerçant de l'immobilier, donc on peut en faire 10 par mois. Il y a aucune limite, puisque ben, ça rentre, c'est de l'achat-revente, donc ça rentre exactement comme dans n'importe quel commerce. On achète, on revend, il y a une marge et on paye les impôts et le chiffre d'affaires dessus. Donc il n'y a aucune limite, contrairement aux particuliers qui font ça sur SCI et tout, où là, il faut justifier quand même, voilà, c'est une dans l'année, voire deux, mais...
Je me souviens qu'un particulier était limité oui, par rapport à ça, sous risque justement de passer
bien sûr, bien sûr. Bien.
Alors, comment tu as géré, toi, cette transition qui tend vers une activité un peu plus artistique ces derniers temps? Est-ce que tu disais que c'était sur ces dernières années, tu tendais à aller un peu plus vers l'art? Comment tu as géré ça? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'était une prise de risque?
Alors, ça n'a pas été facile, une prise de risque. Ça a été imposé à un moment donné de ma vie. Imposé, c'est surtout que, ben voilà, quand j'ai vendu mes parts de ma boîte de diagnostic, j'avais, comme j'ai dit tout à l'heure, encore besoin de travailler. Donc voilà, c'était marchand bien, l'activité plus calme. Et cette activité artistique qui est en moi depuis toujours s'est imposée à ce moment de vie où j'avais peut-être encore plus besoin de me retrouver, de me faire du bien, de créer, voilà, de me protéger. Cette activité artistique est arrivée très naturellement. Elle était là et elle s'est un peu accélérée. Et si tu veux, j'ai eu plus de temps, puisque d'une boîte de 50 salariés, je suis passée à travailler toute seule. Ça s'est vraiment fait...
Ça s'est imposé à toi.
Ça s'est imposé. Ça s'est imposé et ça a été, ben, ça a été mon...
Ton refuge.
Mon refuge.
Quand tu pratiquais de façon un petit peu plus importante cette activité de marchand de biens, est-ce qu'il y a quelque chose qui te sert dans ton art, que tu retransmets à travers l'art ou pas particulièrement
l'activité? Ouais. Ouais. Spontanément, j'ai envie de dire non. Ce qui est vrai dans un sens...
Ne l'est pas forcément dans l'autre.
Ne l'est pas forcément dans l'autre.
Et alors, donc, aujourd'hui, comment ces deux univers s'articulent dans ton quotidien?
Plutôt bah, par bien, exemple. Parce qu'il y a beaucoup de liberté dans les deux.
Dans les deux, oui.
Beaucoup de liberté, pas de récurrence... Et chose qui aujourd'hui est importante pour moi. Donc voilà, je te dis, souvent les rendez-vous, c'est programmé. Donc il n'y en a pas tous les jours, il n'y en a pas 10 par jour. Donc voilà, ça laisse du temps à la création, ça laisse du temps à te répondre à l'interview, ça laisse du temps à organiser des expositions, parce que j'ai également la chance d'avoir mon ancien dépôt de ma première activité de l'entreprise familiale, qui est restée ma propriété. Et donc du coup, je fais revivre ce lieu, qui est cher pour moi parce qu'il est rempli de bonnes énergies, c'est vraiment un lieu important pour moi et qui, à l'unanimité, est apprécié par les gens qui viennent. Là, on vient de faire justement deux expositions coup sur coup et à chaque fois, c'est des belles réussites. Donc ça me prend également beaucoup d'énergie parce que chaque événement, on fait un décor différent. Il y a des éléments dans le dépôt qui restent. Mais après, tout le reste, ça tourne, ça bouge. C'est de l'énergie. Bon, je suis plutôt active, oui. Plutôt très occupée. mais voilà, tout se passe bien.
Est-ce que tu as un fil conducteur, toi, entre tes deux activités? C'est-à-dire, est-ce que comme l'art, c'est quelque chose qui souvent est lié à la sensibilité ou à l'émotion, etc. Est-ce que toi aussi, en tant que marchand de biens, quand tu fais l'acquisition d'un bien, est-ce que c'est au coup de cœur? Est-ce que tu as un fil conducteur au niveau des deux?
Oui, j'ai un fil conducteur. Justement, le fait de... d'avoir le choix, je ressens beaucoup les énergies et c'est très important pour moi. Alors je pense que je suis une marchande bien un peu différente de tous les marchands bien parce que j'achète beaucoup avec mon cœur, avec mon ressenti et avec il faut que le bien me dise quelque chose. C'est hyper important pour moi parce que je pense que j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin de ressentir pour revendre derrière, pour transmettre, que ça soit mon art ou mon immobilier, il faut qu'il y ait un peu de moi dedans, oui.
Est-ce que toi, tu dirais qu'en tant que femme entrepreneur, dans ce secteur d'activité qui reste assez masculin, est-ce que tu as rencontré des défis?
Alors, oui. Par contre, on va revenir donc à mon début professionnel, où donc j'ai travaillé entreprise familiale, comme je t'ai dit, dans les bars, les restaurants, il y a presque 40 ans. Et à l'époque, les femmes dans les bars, ça n'existait pas. Les femmes grossistes, ça n'existait pas, et encore plus jeunes, parce que voilà, j'ai commencé, j'avais une vingtaine d'années. Alors, ce qui m'a aidée, c'est que j'étais la fille du patron, la petite fille du créateur, donc ça m'a quand même bien sûr aidée, mais il a fallu vraiment, vraiment, vraiment que je pousse les portes et que je fasse ma place, parce que très longtemps, on me disait, tu diras à ton papa de passer nous voir s'il y a des questions, et moi, je disais, mais dites-moi les à moi, quoi. Mmh. Et voilà, bon. On est dans une petite région, il y a plein de facteurs qui font que j'ai vraiment dû m'affirmer, et même au niveau des réunions professionnelles, j'étais la seule femme et comme je dis, jeune. Et voilà, donc j'ai grandi professionnellement dans cette ambiance d'homme et où j'ai toujours, je crois avoir réussi à me faire respecter, à faire attention, à pas créer d'ambiguïté, j'ai en tous les cas toujours été respectée et toujours respectée mes clients et l'entourage de mes clients, les familles de mes clients, enfin voilà, je suis toujours restée très droite et irréprochable justement pour être sûre qu'il y ait jamais aucun sujet.
Pour faire ta place.
Ouais.
Est-ce que tu dirais qu'au niveau de l'art, est-ce que pour rebondir un petit peu sur la même question, est-ce que tu as ressenti des freins ou des stéréotypes dans le milieu artistique?
Dans nos petites régions, pas trop, parce que j'ai envie de dire, que ça soit femme ou homme, j'ai presque envie de dire que voilà, sur notre région de la Dordogne, il y a presque plus de femmes que d'hommes dans le milieu artistique. Mais c'est vrai qu'il y a cette légende que aujourd'hui il y a plein de femmes artistes où on dit elles n'ont pas été reconnues parce que c'était des femmes. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans l'art où la femme a toujours été les petites mains du créateur, que ça soit des tableaux ou des sculptures. Moi non, je ressens pas ça.
À ton échelle.
À mon échelle, je ressens pas.
Et est-ce que tu dirais que le fait d'avoir ce prisme féminin, que ce soit dans l'activité de marchand de biens ou dans celle d'artiste, est-ce que ça apporte quelque chose de différent? Si oui, quoi?
Alors, ça apporte quelque chose de différent quand je pense que les vendeurs sont sensibles à l'acheteur féminin. Alors après, je pense que c'est ce que je suis, mais je transmets tout de suite de la confiance et tout, parce que souvent, les biens, quand ils sont vendus, il y a souvent de l'affect. Et le fait que je sois une femme, je pense que m'ouvre des portes. Et surtout, s'il y a choix à faire, je pense que c'est favorisé par le fait que ça soit une femme.
Ça présente un peu plus d'avantages, finalement.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce qui t'inspire, toi, aujourd'hui, dans ton art ?
Alors, ce qui m'inspire aujourd'hui dans mon art, c'est moi. C'est mes sentiments, c'est mon bien-être ou mon mal-être. C'est 80% de mon inspiration.
Tu fais de la peinture, de la sculpture, etc. Mais tu t'orientes vers quoi principalement en fonction de tes émotions ?
Alors moi, je peins de l'abstrait. Ça parle de moi, ça parle de mes sentiments. Mais ce que je veux surtout, c'est que les gens qui ont un de mes tableaux chez eux se fassent leur propre histoire du tableau.
Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, dans ta jeunesse ou quand tu as voulu faire les beaux-arts, est-ce qu'il y avait des artistes qui, à l'époque, sans vouloir forcément t'en inspirer dans tes créations, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont marqué ou que tu admires ou qui t'ont donné envie de te lancer
Alors, je pense que c'est principalement la vie. Principalement la vie. Après, ben, bien sûr, il y a tous les classiques, hein, les Picasso, les Monet, les Cézanne. Enfin, voilà, il y a tous les classiques qui sont importants pour moi. Je m'exprime à travers mon art et c'est surtout hyper personnel et c'est surtout pour moi. Aujourd'hui, je fais quelques expos et tout, mais je ne suis absolument pas professionnelle de la création. Je commercialise pas, je développe pas, je ne suis, ça reste vraiment mon bien-être et mon,
oui,
voilà,
bien sûr,
ça,
oui.
Ça reste vraiment ça. Je ne m'annonce pas artiste, je n'ai pas cette prétention et je ne veux pas parce que c'est trop important pour moi l'équilibre. L'équilibre des deux, c'est très important.
Et est-ce que tu dirais que tu as un rituel ou une routine, toi, dans, au quotidien, qui nourrit ta créativité ?
Oui, le fait d'être plus apaisé, plus dispo, je pense que la disponibilité est hyper importante quand on n'est plus dans un quotidien de chef d'entreprise. Avec pas mal de salariés où tous les matins faut être au bureau, toute la journée on est au bureau pour gérer ce qui va bien, pour gérer ce qui va pas bien, pour gérer. Hein, ben là on n'a absolument pas l'esprit à la créativité parce que y a pas de place. Et là aujourd'hui j'ai plus cette contrainte. Donc aujourd'hui oui j'ai l'esprit plus créatif que business aujourd'hui. Je m'impose pas de rythme parce que c'est surtout ce que je veux plus m'imposer. Très naturellement, ben voilà, on a tous des agendas, donc ben, si j'ai pas de rendez-vous, c'est forcément atelier.
D'accord.
Donc voilà, je suis dans mon atelier. L'atelier peinture n'est pas imposé dans mon agenda, contrairement à l'atelier sculpture, comme je disais, comme c'est à l'extérieur et
oui,
tout, qui est plus alors imposé, qui est plus noté dans mon agenda parce que voilà. Et c'est important quand même de noter parce que même si aujourd'hui j'ai beaucoup moins de contraintes, le temps passe vite et la vie prend vite le dessus et on peut un peu s'oublier malgré tout, même si aujourd'hui je fais très attention à pas re-rentrer dans un système de trop de contraintes, ça va malgré tout très vite parce qu'il n'y a rien de facile.
Est-ce qu'on peut vivre de son art ?
Alors, je pense qu'on peut vivre de son art si on le transforme en activité professionnelle. Mmh. Et donc, c'est-à-dire que tous les jours, on ne fait plus que ça. 8h, midi, 14h, 18h, enfin pour schématiser un peu, tous les jours on ne fait plus que ça. Tous les jours on se met des obligations pour développer, c'est-à-dire les réseaux. Voilà, on cherche des expos, si on consacre 100% de notre temps à la création et au développement, je pense qu'on peut en vivre.
Alors toi, en tant qu'artiste, quel est le moment où tu te dis, tu sais que ton œuvre est terminée ou au contraire qu'elle t'échappe ?
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que ça, c'est compliqué de savoir quand c'est fini. Alors moi, je suis d'un caractère où j'en ai jamais assez, il me faut toujours plus, mais c'est mon caractère et c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt un bon trait de caractère parce qu'on se contente pas de peu, donc ça donne de l'énergie et des armes pour avancer. Et mes tableaux, c'est toujours très généreux. Il y a beaucoup, beaucoup d'épaisseur, il y a beaucoup de choses, voilà, il y a beaucoup d'épaisseur, beaucoup de matière, de couleurs. Et me dire stop, c'est pas toujours facile pour moi. J'apprends. C'est comme je deviens de plus en plus sage dans ma peinture également. Je calme un peu. Et dire quand c'est fini, ben c'est toujours pareil, c'est l'émotion. À un moment donné, tu prends du recul, tu dis bon voilà, là c'est bon, mais parce que c'est un peu l'heure, parce que tu dois partir, donc tu te recules, et puis tu nettoies tes pinceaux, et ben là tu repères qu'il y a un petit coin dans le tableau qui te gêne à l'œil ou tout ça, donc tu sais que tu vas y revenir. C'est des fois double tranchant parce que quand tu touches un petit côté, ben ça déséquilibre le tableau, donc il faut refaire un petit peu plus que tu avais prévu, mais ça fait partie de la vie. Et c'est ça qui est chouette dans la peinture, parce que la peinture, contrairement à plein de choses dans la vie, c'est que la première couche elle te plaît pas, tu rajoutes une autre couche, tu rajoutes des couches et tout, et ça c'est top, parce que c'est plus facile que la vie ou voilà.
Et est-ce que tu dirais, toi, que tu as une texture que tu préfères travailler ou une matière qui te procure vraiment de la liberté ?
Alors, la pierre est une matière qui me parle beaucoup. La pierre, c'est très lourd, donc c'est très physique, c'est très dur. Quand tu crées un objet, enfin un personnage ou un objet, enfin une sculpture, tu pars d'un bloc de pierre. Et le début de la création est très physique, parce qu'il faut y aller pour commencer à donner la forme en gros. Là, il faut y aller vraiment de mon cœur. Surtout que je fais tout manuellement. J'utilise aucun outil mécanique, enfin électrique outil. Ou outil. C'est marteau, burin, voilà. Donc, il y a ce côté physique qui me plaît. Et après, il y a le côté où ben là, on se calme. On commence à donner une forme. Et après, il y a le côté, la forme est là et on peaufine. Et là, c'est vraiment tout en douceur parce que la pierre est très dure, mais elle est ultra fragile. Donc, il y a vraiment, tous les sens sont touchés, sont développés. Et j'ai vraiment un vrai plaisir avec la pierre.
Mais moi, je suis admirative de ça parce que ça me paraît fou, comme avec le bois d'ailleurs. Hein, parce que
comme avec le bois.
C'est incroyable de voir ce qu'on peut faire en partant d'une base brute.
Ah oui, parce que c'est ça. Tu as l'idée de ce que tu veux faire.
Concrétiser, c'est ça. Fou.
On a l'idée. Souvent, on part d'idées. Alors moi, je vais vite m'écarter de l'idée, mais on part souvent d'une image. Donc voilà, d'un plan. Et il faut qu'on l'imagine déjà en forme, en 3D, enfin la forme. Et on part d'un carré. Et la forme, elle est rarement carrée. Donc, c'est un chouette exercice, c'est bien. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de sculpteurs que de peintres. Donc voilà, ça marque un petit peu la différence. Et comme j'aime bien être un peu différente, ça m'amuse également de faire de la sculpture sur pierre pour cette raison aussi. Par exemple, quand tu déposes un dossier pour faire une expo, dès que tu t'annonces sculpteur, 100% des fois, tu es sélectionné. Quand tu t'annonces peintre, c'est beaucoup plus aléatoire et c'est beaucoup moins. Alors, j'ai pas le pourcentage, mais voilà. Parce que des peintres, il y en a plein. Et que des sculpteurs, voilà, il y a beaucoup moins de sculpteurs.
Quel rôle tu dirais que l'imperfection joue à travers ton art ?
Eh bien, j'ai pour habitude de dire que les accidents de la vie, alors des fois, eh bien, tu vas faire tomber le petit pot de solvant sur le tableau. Des fois, tu vas le déplacer, c'est pas sec, donc ça fait des traces et tout. Et moi, j'aime ça. Alors, j'ai la chance de faire de l'abstrait. Donc, si tu veux, ça ne rajoute que de la puissance à mon tableau. Et presque à chaque fois, c'est chouette. Alors, je pense parce que j'ai le caractère de ça et que je m'en acclimate et que je vais peut-être même exagérer la petite touche qui n'a pas été faite volontaire. Mais moi, j'aime bien.
Donc, l'imperfection, ça fait partie de l'histoire de ton tableau.
Ça fait partie de l'histoire.
Quelle œuvre, toi, tu aurais aimé créer dans une autre vie ? Une œuvre existante ou même pas forcément, mais quelque chose avec un matériau ou peu importe, que tu travailles peut-être pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais aimé créer ? La Joconde ?
Pourquoi pas ? Je pense que, comme ça, spontanément, c'est peut-être, tu sais, les tableaux. Tu sais où t'as la scène, où t'as Jésus et tous ses apôtres autour, et que tu as des petits personnages partout qui... Et ça, si tu veux, c'est des choses qui m'impressionnent et qui me parlent et qui me prennent un temps. Enfin, je peux rester des heures devant à regarder. Donc ça, oui, je pense que j'aimerais faire... Tu vois, là, je te regarde derrière toi, ce mur blanc, et commencer à peindre un jour ce mur blanc Et il rajoutait toujours des petites choses, jusqu'à finir à remplir ce mur blanc de petites choses. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les petites choses. Je peins les bras, enfin, je suis très gestuelle et ma peinture est très gestuelle.
Est-ce que tu soignes, toi, quelque chose à travers ton art ?
Oui. Le fait que ça reste une liberté, c'est pour ça que je te disais que je ne veux absolument pas professionnaliser mon art, parce que je soigne mes mots dedans. Quand il y a quelque chose qui m'a dérangée, qui m'a énervée, enfin, quand le quotidien n'est pas facile, ben, ma peinture, elle est facile et ma peinture, elle me renvoie. Enfin, je suis toute seule dans mon atelier, je n'ai pas les remarques, j'ai pas l'agressivité ou la problématique de la vie de tous les jours. Donc oui, ça me protège beaucoup. Ça me soigne dans le fait que...
un exutoire, peut-être.
Oui, ouais. Un exutoire. Et puis quand tu peins, quand tu es dedans, tu oublies tout, tu oublies le temps. Plus jeune, je peignais dans une grange qui n'était pas chauffée. Et je me suis vue des fois me dire complètement gelée, mais de m'en rendre compte quand j'étais vraiment gelée.
Ah oui.
Voilà.
Tu étais absorbée par ton...
C'est ça. Et je sors de ma grange, il fait nuit noire, je suis complètement frigorifiée, je ne sais même pas si je vais pouvoir rentrer dans la maison tellement que les pieds sont raides par le froid, les mains aussi, et que 2 minutes avant, j'étais en train de peindre, et que j'avais ni froid, ni rien. Et ça, c'est un sentiment qui, enfin, pour moi, qui est extraordinaire.
Est-ce que ta première sculpture, par exemple, t'en as été particulièrement fière ?
Alors, ma première sculpture, j'ai été particulièrement fière parce que j'étais dans un club de sculpture, ma première sculpture, et la prof, enfin la personne qui accompagne ce club, m'a dit tout de suite, waouh, mais c'est chouette, mais t'es sûre, c'est la première fois que tu fais de la sculpture. Donc oui, j'ai été tout de suite chouette. Après, c'est absolument pas ma sculpture préférée. Et voilà, aujourd'hui, avec les années. Ça fait 10 années que je sculpte. Voilà, c'est vraiment... Alors, je l'ai toujours. Je sais que c'est ma première sculpture. Voilà, elle est chez moi, elle est dans mon environnement. Parce que je mets mes pierres autant dehors que dedans, même plutôt dehors. J'aime que la pierre, même si elle noircit, qu'elle verdit, voilà, ça me va bien. J'ai envie de dire que j'aime toutes mes pièces, j'aime tous mes tableaux. Parce que tant que j'aime pas, j'arrête pas. Alors, bien sûr, il y en a toujours qu'on a un peu plus de sentiments avec parce que... Je pense que ce que j'aime surtout, c'est quand c'est des grands formats et que ça envoie beaucoup et que voilà, mais je les ai tous accrochés chez moi, je les ai tous. Alors après, bien sûr qu'il y a des réalisations. Des fois, je me dis, tu vois, pour le besoin de l'expo, je vais faire plutôt des petits formats parce que bon, voilà. Donc là, c'est peut-être ce que j'aimerais le moins parce que je les ai fait un peu par
obligation.
Par obligation ou surtout par besoin. Et tu vois, et c'est là où je me rends compte que
il voilà. Ressort pas la même chose.
Ouais.
Elisabeth, si on veut te retrouver, si on a un bien à vendre ou alors si on a envie de contempler et d'acheter éventuellement tes œuvres, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, l'idéal, c'est mon dépôt laborieux, qui est l'institution laborieux, du groupe laborieux. Donc, le dépôt, c'est une marque, Ariel également, où le siège social est au 37 boulevard du Puy-Rousseau. Donc voilà, et après, ben, mon téléphone est très accessible sur... j'ai un site internet, voilà, c'est très facile d'avoir mon numéro de téléphone. Il est même noté directement sur la façade parce que j'ai également des parkings à louer autour du dépôt laborieux. Donc, il y a mon numéro de téléphone affiché,
placardé.
Donc, c'est facile. Après, pour tout ce qui est immobilier... J'ai pour habitude de passer par des agents immobiliers, j'ai envie de dire 90% des fois. Alors déjà, c'est des gens que j'ai fréquentés pendant de nombreuses années, avec qui j'ai des très bons contacts. Et c'est pas le même métier. Donc voilà, j'achète par un agent immobilier et je revends par le même agent immobilier. Voilà, c'est la pratique la plus courante. Après, bien sûr, si autour de moi, dans mon environnement proche ou moins proche, s'il y a des occasions d'acheter en direct, bien évidemment que je prends, bien évidemment. C'est une certitude. Mais sinon, voilà, je ne fais absolument pas le métier d'agent immobilier. C'est vraiment deux activités différentes.
Eh ben, ça marche. Je te remercie beaucoup, Elisabeth, pour tout le temps que tu m'as accordé et puis pour ce moment très sympathique qu'on vient de partager, qui m'a appris aussi beaucoup de choses. Notamment sur l'art, oui.
Merci, Carolina.
C'était Carolina sur Radio Libre en Périgord.